RTL.
On refait le match.
Pascal Pro.
Bonsoir à tous, bienvenue, on refait le match. Nous serons dans quelques secondes à Guingamp où ça ne va pas vraiment mieux pour l'Olympique lyonnais. Autour de la table, Sylvain Charlet d'RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Eric Bilderman de l'équipe magazine, bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Léon, c'est là de l'équipe, bonsoir.
Ami, bonsoir.
Deva Padoue de France Football.
Bonsoir à toutes et à tous.
Guingamp-Lyon, donc, avec beaucoup de questions sur les Lyonnais, notamment un retour sur la sanction Tolisso de match ferme. Est-ce que c'est assez? Lacazette et son départ annoncé dans le Canal Football Club. Les supporters de l'OL et d'autres, d'ailleurs, qui font parfois la loi. Ce sera un de nos premiers thèmes ce soir. Paris est-il prêt à 4 jours de rencontrer Barcelone avec beaucoup de questions? Quelle équipe, notamment contre Barcelone? Balotelli est-il un poids mort pour Nice? Griezmann à Manchester, est-ce que c'est une bonne idée? Wenger, est-ce que ça sent la fin. Bref, football pendant une heure jusqu'à 19h30 avant le multiplex.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Bonsoir Thierry Lardeux.
Bonsoir Pascal, bonsoir messieurs.
Ça ne va pas beaucoup mieux à l'Olympique Lyonnais qui menait pourtant 1-0, oui. Qui menait 2-1.
C'était effectivement très bien parti. Magnifique but de Lacazette après seulement 10 petites minutes de jeu, son 20e de la saison. Magnifique frappe enroulée dans le petit filet de Johnson. Mais la défense lyonnaise, alors que là il y a une occasion justement pour les Lyonnais avec la tête de Diakabi qui passe à côté. La défense lyonnaise a été aux abois deux fois en 4 minutes. L'égalisation d'abord de Diallo, les Lyonnais pris sur un contre, et puis 4 minutes plus tard, c'est Benezet complètement seul dans la surface de réparation qui se joue de tout le monde. Petite tête décroisée suite à un remarquable travail de Salibur. Depuis, évidemment, les Lyonnais poussent, tentent, mais sont en train de bloquer face à une défense bien regroupée. Memphis est rentré, il a tenté une jolie frappe tout à l'heure qui est passée de peu à côté, mais les Lyonnais sont à la peine à Guingamp cet après-midi.
Ça sent quand même pas très bon, Deva Padoue, cet Olympique lyonnais, parce qu'on a toujours le sentiment que Lyon va revenir dans la course, que ça va être comme l'année passée, que finalement le sprint va être lancé, que Lyon va reprendre son niveau de jeu. Et je suis pas sûr que ça arrive cette année.
Non, et moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'effectivement Lyon avait la recette, parce qu'ils l'ont fait l'année passée, ils l'ont déjà fait sur les 3-4 dernières années, ils l'ont fait plusieurs fois. Et peut-être qu'eux ont fini par penser que, bah, puisqu'on l'a fait et refait, et ben, il suffit de se présenter sur le terrain pour que ça se fasse tout seul, parce qu'on a enquillé un bon mois de décembre, etc. Et on se demande s'ils sont pas vus trop beaux trop vite. Ils se sont peut-être dit, bah, Nice va chuter, nous mécaniquement on va gagner, et puis on s'aperçoit que, sorti du parc OL, franchement ils ont du mal. Et
la façon, il n'y a pas d'agressivité,
et franchement le derby il a été extrêmement révélateur.
Il y a un parallèle par rapport au derby. Justement, la saison passée, ils perdent sur le même score de 2-0. Et derrière, ils enclenchent un final assez extraordinaire. Cette année, ils le perdent 2-0, mais il y a une différence, pas au niveau du résultat, mais dans la prestation des Lyonnais. Ils ont toujours été formatés par, que ce soit le président Jean-Michel Aulas ou par Bernard Lacombe, le conseiller personnel d'Aulas, à préparer ces derbies, à les jouer dans l'agressivité, de jamais renoncer. C'est pour ça qu'ils l'ont gagné depuis 20 ans. Et là, dimanche dernier, on a l'impression qu'à part un pétage de plomb, on en reparlera en fin de match, ils ont subi les Lyonnais, alors qu'on sait très bien qu'individuellement et collectivement, ils sont supérieurs aux Stéphanois. Oui, mais ça, c'est très inquiétant. Parce qu'elles sont des signes très inquiétants.
Non, mais moi, je vais vous dire, vous ne posez pas la vraie question. La vraie question, c'est peut-être Genesio. Quand Genesio, il dit une fois, deux fois, trois fois après les matchs les mêmes constats, que son équipe n'est pas agressive, etc., c'est peut-être lui qui a du mal à transmettre.
Mais enfin, Pascal, vous pourriez parler d'avant les matchs aussi, parce que si on parle du derby, il a quand même fait une erreur de coaching assez incroyable, c'est de laisser Mathieu Valbuena sur le banc et de titulariser parce que le mardi son coaching à Marseille, on peut en reparler aussi. Je veux dire, il a une part de responsabilité aussi avant les matchs.
Bien évidemment, et derrière cela, il y a peut-être aussi la responsabilité de Jean-Michel Aulas de ne pas choisir pour Lyon un entraîneur de très haut niveau qui prendra peut-être ses distances par rapport à la direction, mais qui fera le job. Oui, Eric Bilderman, on est dans une vraie question.
Mais c'est une vraie question parce que à partir du moment où vous faites venir un entraîneur de très haut niveau extérieur, c'est que vous remettez en cause la structure, vous remettez en cause l'institution.
Exactement.
Et vous remettez en cause le statut et le confort de chacun, et en même temps un savoir-être et un savoir-vivre ensemble. Parce que ce club, s'il est aussi pérenne dans une forme d'excellence, même si de temps en temps il y a des résultats qui, comme cette saison, sont décevants, c'est parce que l'institution est plus forte que les hommes. Et quand on a fait venir Claude Puel, où à un moment donné on avait donné presque les pleins pouvoirs sur le papier à Claude Fouet, à Claude Puel, en donnant l'illusion à Claude Puel qu'il allait être un patron. Très rapidement, la structure l'a remis à sa place, c'est-à-dire tu n'es qu'un entraîneur. C'est très compliqué dans ce club, aujourd'hui, politiquement, de faire venir une forte personnalité.
Oui, mais là, Charlet... Oui,
par rapport à ça, je pense qu'en effet, la question de Genesio va se poser, parce que au bout d'un moment, quand tu as un manque d'agressivité, un enchaînement de résultats comme sont ceux de Lyon en ce moment, parce que on parle de Saint-Etienne, là, ce soir, c'est Guingamp, mais rappelez-vous, avant, il y a eu la défaite à domicile face à Lille, il y a eu la défaite à Caen, il y a eu Dijon aussi, enfin, ça ne fait que s'enchaîner. Donc, en effet, je pense qu'il y a une part de responsabilité de Genesio. Moi, j'ai du mal à voir à quel degré elle peut être jaugée, mais après, les joueurs sur le terrain, pour moi, c'est limite catastrophique. Là, ce qu'on a vu à Saint-Etienne, on le revoit ce soir. Sur le deuxième but de Guingamp, ils sont 5 Lyonnais dans la surface de réparation. Tu as 2 Guingampais, il y a 0 agressivité. On les regarde jouer. Alors, il y a la responsabilité des joueurs. Et puis, au bout d'un moment, ouais, il y a peut-être certains statuts qu'il va falloir remettre en question. Mais qui on met sur le terrain ?
Et là,
qui
on met sur le terrain ? On est quand même ce soir potentiellement à 10 défaites pour Lyon. Ouais. 10 défaites en 24 matchs.
C'est Lyon en puissance.
Donc c'est quasiment un match sur deux.
Mais c'est là où je rejoins Pascal Praud sur la notion de grand entraîneur ou d'entraîneur étranger. Parce qu'on sent bien quand même dans le vestiaire, il y a un problème, il y a une espèce de consanguinité, ou il y a une espèce de clan des Lyonnais qui gère. On l'a vu avec les difficultés d'intégration de Mathieu Valbuena. Et on voit que c'est un système qui est avec de l'air vicié et que ça ne fonctionne plus. Et que peut-être qu'effectivement, de faire venir non pas un entraîneur du Serail qui venait de la formation comme Bruno Genesio, mais un entraîneur extérieur, il aurait peut-être remis les choses à plat et surtout remis les joueurs dans le bon sens.
Et là, le souci, c'est que la Cartolas, ils l'ont déjà joué, ils l'ont déjà abattu, puisqu'un peu plus tôt dans la saison...
La Cartolas,
c'est-à-dire que quand Olas est monté lui-même au créneau pour dire bon, maintenant, fin de la récré, et là, à la trêve, il faut arriver avec 31 points, d'ailleurs, ils ont fait mieux que prévu, c'est là que Lyon a commencé à enchaîner, et n'a eu qu'une seule défaite, d'ailleurs, c'était contre le PSG, on s'est dit, tiens, aïe, cette fois, ils se sont mis dans le bon sens et tout. Le problème, c'est que cette carte, ils l'ont abattue, ils vont pas la jouer à chaque fois. Là, il va pas de nouveau reprendre la parole pour remettre tout le monde d'équerre. Là, le truc, c'est que les ressorts, et moi, je rejoins Bernard, j'ai l'impression que les ressorts sont un petit peu...
Moi, il y a une chose, donc, déjà, dans le jeu qui me dérange, c'est que Genesio, il semble toujours tâtonner, ne pas avoir trouvé son système qui s'impose.
J'allais venir.
Au début, tu te dis, bon, alors, ok, d'accord, il cherche 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Tu te dis, bon, alors, je veux bien qu'il tâtonne, mais au bout d'un moment, il te faut un système prioritaire. Toutes les équipes qui réussissent des choses ont un système prioritaire. Et là, ça balance. 4-3-3, 4-2-3-1. Ça, c'est un premier souci. Et après, moi, je me demande s'il ne serait pas trop gentil.
Oui, mais on sait bien pourquoi. Parce qu'il faut faire une place à Fekir. Et Fekir, je l'ai vu dimanche dernier au stade Geoffroy Guichard. Ben, il n'est pas au top dans son expression technique, mais aussi physiquement.
Et dans l'état d'esprit.
Non mais physiquement, je veux dire, je l'ai trouvé, enfin excusez-moi, mais je sais de quoi je parle en plus, je l'ai trouvé un peu en surpoids, notre ami Fekir. Et donc là, cet après-midi à Guingamp, il remet en place son 4-2-3-1 pour faire une place à Fekir, et c'est un système qui ne fonctionne pas. Et je rejoins là aussi Sylvain Charlet dans l'analyse, il aurait dû installer son 4-3-3, quitte à laisser Fekir sur le banc.
Guingamp, Thierry Lardeux, toujours de Buzyn pour les Guingampais.
Oui, justement, Fekir, il est servi dans la surface de réparation, pied droit, pied gauche, il enroule. La défense, encore, de Guingamp, qui se bat, elle, avec Kerbrat notamment, pour tenir bon cet avantage de 2 buts à 1. Évidemment, la possession est nettement, complètement en faveur des Lyonnais, mais ça manque quand même beaucoup d'imagination pour trouver Memphis, qui est entré il y a 10 minutes, pour trouver la Cazette.
Mais c'est pour ça qu'il a fait jouer l'autre jour, qui est à court physiquement, qui n'a pas été bon du tout.
Qui a été surpayé.
Parce qu'au-delà du choix des hommes...
Qui a été surpayé, je ne sais pas, mais bon... Aussi,
mais non, mais Sylvain a raison d'ouvrir ce dossier, parce que si aujourd'hui, on constate que Genesio n'arrive pas à trouver la formule, on peut aussi se poser la question du choix des hommes. Et ça date pas d'aujourd'hui. La cellule de recrutement qui aujourd'hui travail se fait autour essentiellement de Florian Maurice. Mais quand on voit l'accumulation de défenseurs centraux, souvenez-vous d'un certain Lindsay Rose qui a débarqué de Valenciennes, qui a été une météorite. Il y a eu un joueur aussi dont même le nom m'a échappé, avec une queue de cheval.
Un défenseur central
qui a fait 2-3 saisons. Ce qui est terrible, c'est qu'on en arrive à oublier les noms.
Non, surtout toi.
Franchement, je ne comprends rien de ce que vous dites. Donc on va marquer une page de publicité. Bah oui, vous nous parlez de joueurs. Vous vous rendez compte? Un expert, un joueur à queue de cheval.
mal.
Non mais attendez, qu'est-ce que cela veut dire, Eric Bilderman?
Je vais le trouver pendant la pause.
Bah oui, bah qu'a essayé de travailler un peu.
Le sosie de Manu Petit.
18h39, Guingamp mène 2-1. Eric Bilderman va travailler. Dites bonjour à la caméra.
Bonjour la caméra.
Voilà, parce qu'on est. Et puis si vous êtes sur la route, soyez prudent. Vous êtes peut-être pas en partance.
Pour oui, revenir de la
quelques
plage.
Jours de vacances. Si vous revenez des pistes, pourquoi pas pour ceux qui ont la chance de voyager.
À tout de suite. C'était Coné.
Connais, voilà. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Pascal Praud.
18h42, c'est le dossier. L'Olympique Lyonnais ce soir. Lyon qui est mené 2-1 à Guingamp. Thierry Lardeux, il reste combien de temps?
Il reste très exactement 4 minutes 20 dans le temps réglementaire de cette rencontre. Lyonnais qui continue de monopoliser le ballon, de pousser un peu sans être dangereux. Et son but surtout de 2-1.
Qu'est-ce qui se passe, Eric Bilderman?
J'ai retrouvé la photo de Bakary Koné avec ses cheveux attachés.
Et vous croyez que ça nous intéresse? Vous croyez que nous sommes là pour faire.
Je veux dire. Travailler, donc je commence.
Non, mais vous croyez vraiment que c'est intéressant de faire une étude capillaire de monsieur Koné?
Et puis à la radio, ça passe vachement bien.
La seule chose qu'on se souvienne dans le recrutement des défenseurs centraux, c'est qu'on finit par oublier le nom des joueurs tellement on a accumulé
et on leur invente des coachs cheval.
Ça fait 15 ans que le problème, pas 15 ans d'ailleurs, mais la défense lyonnaise, je le dis à chaque fois, Puel, un jour à Lorient, avait tenté tout l'allant en défense centrale. Et j'ai l'impression que c'est un domaine, c'est un sujet récurrent depuis des années.
Depuis Chris Kachapa.
Voilà. Des questions sur l'OL cette semaine. La sanction Tolisso. Il a pris 2 matchs fermes alors qu'il a fallu.
Plus 1 avec sursis.
Oui. Donc 2 matchs fermes.
S'il prend un jaune dans les 10 prochains matchs, au moindre carton jaune dans les 10 prochains matchs, il est suspendu à nouveau.
Merci Eric Bilderman de me rappeler à l'ordre. Il a pris 2 matchs fermes alors qu'il a failli découper quand même le Moine. Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu? Et surtout, forcément, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, mais il faut toujours s'en méfier, que ce serait l'influence, pourquoi pas, du président Aulas.
Aulas a eu l'intelligence,
Deva Padou,
la bonne idée de dire qu'il y aurait une sanction en interne.
On ne sait pas le montant.
On ne sait pas le montant, voilà. Mais il a dit, on va taper dans le
porte. Ah oui, vous croyez que c'est ça qui a expliqué les 2 matchs fermes? Ah, vous êtes malin, j'y avais pas du tout pensé.
Non, mais la commission de discipline est toujours très sensible, quels que soient les problèmes, quand un club ou un dirigeant...
Ah mais c'est un génie, alors on l'a...
Il connaît les ressorts, il sait comment ça fonctionne.
C'est un génie, la communication.
Bien sûr.
Le patron de la...
Ah ça, vous pensez que c'est parce qu'en interne...
Le patron de la commission a dit, jeudi soir, voilà, on lui donne 2 matchs, plus 1 avec sursis s'il prend le moindre jaune dans les 10 prochains matchs, parce que la sanction de base normalement c'est 3 matchs. Il a dit que ce qui a été pris en compte, c'est le casier du joueur. C'était le premier rouge de sa carrière. En plus, il est venu, il a présenté
son premier rouge dans l'histoire.
C'est le premier rouge de sa carrière. Après, nous, je pense qu'il y a quelque chose qui nous influence, c'est qu'en fait il a une image de gosse mal élevé, mal éduqué. Il y a toujours des embrouilles avec lui sur le terrain. Et moi, la référence que j'avais en tête, c'était la sanction de Mendy. C'était lors du Marseille-Lyon, où il avait taclé, je crois, Tolisso, ou un coup de pied par derrière. Il avait pris 5 matchs.
Donc, 2 matchs, c'est bien ou c'est trop ou c'est normal?
Bah, j'aurais aimé plus, mais j'entends.
Oui, bon, c'est j'entends une position la chèvre et le chou.
Il faut choisir,
camarade.
Non, mais j'ai le droit d'avoir du mal à trancher.
Mais il y a un moment.
On refait le match.
Au niveau de la commission de discipline en Angleterre, quand tu prends un rouge direct, tu prends systématiquement 3 matchs. Et s'il y a récidive, la sanction est de 4 matchs. Donc là, 2 plus 1, on n'est pas très très loin de la jurisprudence anglaise.
Mais
c'est 2 plus 1. C'est vrai que 3 matchs, globalement, je pense que ça aurait été.
Ce qui me gêne dans cette sanction.
Et vous êtes un peu stéphanois.
Non, ce qui me gêne, c'est qu'on différencie la gravité du geste et les conséquences du geste. Et on ne retient aujourd'hui dans l'arbitrage français que les conséquences. C'est-à-dire que n'importe quel joueur peut aller en découper un autre. Si l'autre, il arrive à se relever, c'est pas très grave. Et moi, je suis désolé, mais le geste, il est extrêmement grave. Alors la gravité du geste, c'était au minimum 3 matchs fermes. Voilà. Il aurait fallu quoi? Que le Moine se fasse briser la jambe pour qu'on mette 3-4 matchs à Tolisso.
Il aurait pris plus, là.
Donc vous me suivez dans mon analyse, c'est-à-dire que la gravité du geste, peu importe.
Dans la loi
parce que souvenez-vous, quand Kurzuma casse la jambe de Sochalin Gerbert, quand Valentin Siric casse la jambe du Stéphanois Jérémy Clément, on a à peu près calqué la durée d'indisponibilité du joueur blessé à celle du joueur qui l'a blessé, c'est-à-dire c'était à peu près 10 ou 11 matchs. Exactement. Ça, je l'entends. Mais sur un geste comme ça, qui est un règlement de compte, qui est un geste de entre guillemets, de voyous. Je veux dire, ça, tu peux pas l'accepter sur un terrain de foot. Et ça, tu dis, ben non, alors il n'y a pas de casier judiciaire. Finalement, Fabien Lemoine, ben oui, mais il faut pas oublier que le règlement, il aurait dû être suspendu.
Vous trouvez que c'est trop peu?
C'est trop peu.
Déva Badou.
C'est trop peu parce que ça, c'est exactement un comportement qu'on trouve sur les terrains de district. C'est-à-dire, t'as fait expulser mon copain ou tu t'es payé mon copain, parce que c'est clairement ça. Le moine a fait expulser Guézal, enfin dans l'esprit lyonnais, c'est comme ça qu'ils le disent. Et le mec dit, je vais me le payer. Et c'est exactement ce genre de truc. On a une peine qui est, allez, on va dire, on est tous d'accord, clémente, qui est pas très très lourde. Ouais. Et derrière, tu vas expliquer sur les terrains amateurs qu'il faut arrêter la violence, qu'il faut arrêter les mauvais comportements. Tu peux pas avoir.
Comment tu vas sur un terrain amateur,
Eric, je pense que tu prends très
cher. Juste pour revenir sur la sanction financière. Il est probable que la sanction financière pour Tolisso soit simplement la suppression de la prime d'éthique. Chaque joueur à Lyon touche en moyenne 20 000 euros par mois de prime d'éthique.
De toute façon, donc vous pouvez pas sanctionner.
On ne peut pas sanctionner financièrement sur les salaires. Sanctionner sur les primes. Donc la seule chose qui va sauter, c'est une ligne sur son salaire.
C'est même pas une sanction d'ailleurs, parce que vous n'avez pas. C'est illégal de sanctionner financièrement. Par exemple, votre employeur, vous, et Dieu sait s'il aimerait de temps en temps, ne peut pas vous sanctionner financièrement, Eric Bilderman.
Son employeur,
c'est interdit.
Vous voulez dire son patron qu'à la queue de cheval?
Allez, 18h45, on va marquer une page de pub parce qu'on ne veut pas évidemment manquer la fin de la rencontre. Il reste combien de temps, Thierry Lardeux, gagnant 2-1?
3 minutes, on est rentré dans le temps additionnel.
3 minutes plus combien de temps additionnel?
Non, il reste 3 minutes de temps additionnel.
On va le suivre avec vous parce que c'est important ce soir. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
À 18h49, ça pourrait être vraiment l'événement ce soir. Et je voulais vous poser la question, est-ce que ça pourrait chauffer pour Genesio en cas d'une nouvelle défaite? Ce serait la 9e. Thierry Lardeux, Lyon est mené 2-1.
Oui, et Genesio n'est pas là. Hein. Il est cloué par une mauvaise grippe dans son lit à Lyon. C'est Baticle qui est sur le banc ce soir. Les Guingampais qui ont eu l'occasion de breaker définitivement. Mais l'ancien Lyonnais, Jimmy Briand, a raté complètement son petit piqué par-dessus Lopez. Il reste très précisément 1 minute 15 à jouer dans ce temps additionnel et les Lyonnais sont à l'attaque à l'approche de la surface de réparation. Mouktar Diakabi, le grand arrière central, est resté planté là pour attendre les ballons et mettre sa tête notamment. Et pour l'instant, les Guingampais font de la résistance. C'est pas terminé. Il reste sans doute peut-être encore une occasion, qui sait, avec Gonalons pour Fekir sur le côté gauche pour Morel. Morel qui est complètement à l'arrêt. C'est à l'arrêt qu'il va essayer de trouver Fekir dans la surface de réparation. Beaucoup, beaucoup de difficultés là pour les Lyonnais de prendre de la vitesse. Petit ballon quand même par-dessus. Et Johnson qui capte le ballon sur une tête piquée de Diakabi. Il va rester 30 secondes à jouer et les Guingampais mènent toujours 2-1 avec ce long dégagement de Johnson à destination de Jimmy Briand. C'est sans doute
4 défaites en 5 matchs de championnat quand même. Défaite contre Lille à domicile, défaite à Marseille, défaite à Saint-Etienne et là ce serait une défaite à Guingamp pour une victoire contre Nancy.
Elle est là, Pascal, fin de la rencontre. Sur ce score de 2-1, les Lyonnais avaient pourtant ouvert la marque par la casette à la 10e. Mais ils ont pris l'eau sur quasiment les deux seules occasions guingampaises d'ailleurs de la rencontre. Diallo a égalisé à la 30e et Benezet de la tête a donné l'avantage qui s'avère définitif, 2-1. Nouvelle défaite pour les Lyonnais et une victoire qui relance des Guingampais qui étaient complètement à la peine depuis le début de l'année.
Visage fermé de Jean-Michel Aulas à côté de Bernard Lacombe. 4e défaite, je le répète, en 5 matchs ce soir. Guingamp a battu Lyon 2-1.
On refait le match sur RTL.
Je ne vais pas vous poser finalement la question sur Genesio parce qu'on n'en sait rien et je pense qu'il ne va pas être viré de toute façon. On est d'accord, il ne va pas être viré ces prochaines heures. En revanche, Lacazette, son départ annoncé, ça vous a choqué qu'il l'annonce au Canal
Football? Non, ça n'a pas été le droit de l'annoncer juste
et la réponse de Laz d'ailleurs qui a parlé d'une manip.
Bernard Lyon, il faut quand même préciser une chose, c'est la 4e fois qu'Alexandre Lacazette annonce son départ de Lyon en fin de saison. C'était absolument tout sauf une nouvelle. Le problème qu'a eu,
c'est non mais c'est il a dit changer d'air.
Il a répété, avant le derby. Ben quand voilà. On sait la susceptibilité des supporters lyonnais comme les Stéphanois pour ce match qui est très particulier, je pense que le timing,
il est pas très malin. Il était mal choisi dire à ce moment-là, franchement. Alors Jean-Michel Aulas a expliqué, et là faut être en désaccord, que c'était une question au détour d'une phrase posée par un journaliste. Non, il y a pas de question au détour. Mais non, mais oui. Vous avez raison d'ailleurs. C'est dans tous les domaines. Je pense qu'il y a beaucoup de médias.
Je suis d'accord. J'espère qu'on n'est pas en train de suggérer que le problème de Lyon en ce moment c'est la Cazette.
Ah ben,
c'est le seul qui est à peu près au niveau.
Non. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont allés au stade et ensuite qui sont sortis du stade et qui ont appris à ce moment-là que la Cazette avait parlé de son départ et se sont dit il en a parlé après le match. Moi le premier, j'ai vu des choses
sur les réseaux. Oui, on avait fait une dépêche.
Oui, non, mais je sais bien. Mais tu as des gens qui étaient peut-être au stade, des supporters qui ont découvert ça après le match et qui se sont dit après le match, il t'annonce qu'il va partir. Bon, après, en effet, c'est pas le premier des problèmes. Et ce qui s'est passé avec les supporters, c'est du grand n'importe quoi.
Alors justement, les supporters.
Ce serait une péripétie si tout allait bien.
Deva Padou, justement, les supporters de l'OL. Mais c'est aussi le cas de Saint-Étienne en ce moment. C'est un peu partout. J'ai vu d'ailleurs une double page. C'est les ultras dans l'équipe qui pèsent sur la vie du club au quotidien. Ce sont des minorités actives. On l'a vu avec Mounier. Je pense que tous les supporters de Geoffroy Guichard n'étaient pas contre l'arrivée de Mounier. Je parle sous votre contrôle.
Globalement, si.
Ah ouais ?
Voilà. Jeunes ou anciens, n'étaient pas. Non, mais je vais vous dire pourquoi.
Non, mais c'est les minorités actives, les ultras qui.
Moi, je ne dois pas être d'accord avec vous, Pascal. Je pense que vous demandez à un supporter stéphanois lambda l'arrivée de Mounier. Ils n'étaient pas spécialement pour les stéphanois pour deux raisons. La première, parce que la valeur ajoutée d'un point de vue sportif ne me semblait pas évidente. Est-ce qu'un joueur qui est dans une équipe dans laquelle il ne joue pas et qui est 17e de Serie A peut apporter quelque chose?
D'accord, mais ce qui est désagréable, c'est le climat.
Et après, il y a ce qu'il avait dit.
Ce qui est désagréable, c'est le climat. Le climat de faire régner une forme de terreur sur le club, sur les dirigeants, sur les supporters, sur les joueurs. C'est parfaitement insupportable.
Alors après, on peut, si on revient au cas Mounier, on peut comprendre, puisque historiquement, quand vous êtes au Celtic, vous n'allez pas aux Rangers. Quand vous êtes à Manchester United, il est très compliqué, même si c'est arrivé, d'aller jouer pour Liverpool. Il y a des antagonismes qui font que pour un joueur de passer de l'un à l'autre, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand
Lyon-Saint-Etienne, ça fait 40 ans qu'il y a des joueurs. Ce que vous êtes en train d'oublier,
encore une fois, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère où une phrase...
Je ne l'oublie pas.
Une phrase de Mounier est ressorti et décontextualisé et ça fait monter
Mounier n'a cessé de clamer Bernard son Léonce. Désamour des Verts et son amour pour l'Olympique Lyonnais. Ça aurait été le 43e joueur qui aurait porté les maillots des deux clubs. Le maillot des deux clubs. Je veux dire, il y a des Clément, il y a des Clair, il y a des Coates.
Bernard Lacombe.
Bernard Lacombe en parlait.
Je pars d'une période très récente. Et François Clair, Jérémy Clément, qui est toujours au club, ça n'a jamais posé de problème.
Bernard Lacombe en parlait récemment. C'est ce que dit Eric. C'est-à-dire que maintenant, avec pourquoi pas les réseaux sociaux, avec les ultras ou les supporters, entre guillemets, qui font peser sur la vie du club, enfin, c'est pas hasard que les quatre dernier mois, l'incident de Nantes dans la tribune présidentielle, l'incident de Saint-Étienne, l'incident de Lyon, ça fait quand même beaucoup.
Mais Pascal, Bernard Lacombe en parlait très récemment dans les colonnes de France Football. Il en parlait justement de ça. Il disait, alors on se mettait des peignées sur le terrain entre Lyonnais et Stéphanois, c'était très violent, très brutal, plus qu'aujourd'hui. Mais par contre, en dehors du terrain, les mecs, ils allaient manger ensemble. Aujourd'hui, mais la Cazette qui va se faire une bouffe avec
des il y aura une photo sur les réseaux sociaux,
un téléphone, et ben voilà. Tout ça crée un environnement de paranoïa.
D'abord, c'est bête. Disons-le, c'est très bête, c'est insupportable. Et puis voilà, avant, tu pouvais effectivement, il y avait une part de dérision
de chambrage.
Voilà. Exactement.
Et aujourd'hui, on est dans la pseudo-transparence qui fait que ça s'appelle aujourd'hui de l'inquisition.
Dans les travées des stades, dans les tribunes, hein, si vous, de temps en temps, vous allez voir un match vraiment dans les tribunes, il se dit beaucoup de bêtises. Il y en a certains, on a envie de leur dire, là, il va falloir repartir à la base. Moi, par rapport à ce qui s'est passé à la Cazette, là, c'est de la pure bêtise des supporters. Moi, je ne suis pas un grand fan de la Cazette. Mais ce qu'il fait à Lyon depuis des années, au bout d'un moment, tu as envie de dire à certains, les gars, vous avez perdu la mémoire.
Pourquoi vous n'êtes pas un grand fan de la Cazette, par exemple? Qu'est-ce que vous lui
sportivement parlant, je vais pas dire, je ne suis pas convaincu qu'il deviendra un joueur de classe internationale. Je trouve il est très très bon en Ligue 1, mais je suis pas convaincu.
Il est rentré dans l'histoire de la Ligue 1 quand même cet après-midi, la Cazette.
Comment
c'est le, c'est, bah, il est rentré dans l'histoire de la Ligue 1. C'est le premier attaquant français. Léonce.
depuis Jean-Pierre Papin en 1992 à réussir à une saison, enfin trois saisons d'affilée à plus de 20 buts. Ouais.
Mais,
c'est mais pas
voilà.
rien.
Mais moi, je suis pas convaincu.
Bonne statistique, Bernard.
Voilà. C'est énorme.
Bonne statistique. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse s'imposer à l'étranger.
Regarde Jean-Pierre Papin.
En équipe de France, par exemple, il a toujours autant de difficultés depuis des mois, voire maintenant des années, à prendre le dessus sur des joueurs comme Gignac, Gamero. Il est absent actuellement dans la hiérarchie de Deschamps. Il n'y est pas.
Les 3 fois 20 buts aujourd'hui de Lacazette n'ont peut-être pas non plus le même poids que les 3 fois 20 buts de Jean-Pierre Papin dans un championnat qui, il y a 20 ans ou 25 ans, était quand même d'un autre niveau. Et donc, on peut effectivement.
Et jouer
comme
dans
Sylvain,
une autre équipe.
Non, mais on peut aussi, comme c'est absolument, on peut, comme Sylvain, se poser la question sur le fait qu'il passe le cut.
C'est la fin de la première mi-temps d'en fin de match dans la deuxième mi-temps. Paris est-il prêt? Cavani est-il plus fort qu'Ibra, plus fort que Suarez? Quelle équipe contre Barcelone? Trapp ou Areola? Aurier ou Meunier? Qui à côté de Cavani? Draxler, Lucas, Di Maria. On va s'interroger. Balotelli est-il à point mort pour Nice? Griezmann à Manchester United, est-ce une bonne idée? Les infos dans quelques secondes. Vous restez bien évidemment avec nous. Il est bientôt 19h, vous êtes sur RTL.
RTL.
On refait le match.
Pascal Pro.
La deuxième partie de On refait le match. Lyon n'est pas guéri. Lyon a perdu ce soir à Guingamp. C'est la 9e défaite depuis le début de saison de l'Olympique Lyonnais qui avait pourtant ouvert le score grâce à Lacazette.
10e défaite.
La 10e défaite. 10e défaite de l'Olympique Lyonnais, effectivement. Guingamp a marqué par Diallo et Benezet alors que Lacazette avait ouvert le score pour l'Olympique Lyonnais. On en a parlé dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons parler du Paris Saint-Germain. Nous sommes avec Sylvain Charlet d'RTL, avec Eric Bilderman de l'équipe magazine, l'équipe représentée également par Bernard Lyon. C'est Dave Attadou de France Football. C'est Damien Béchiot qui ce soir est à la réalisation.
Pascal Pro.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Paris est-il prêt?
Oui.
Question simple.
Oui.
C'est dans 4 jours.
Mais oui. Barça aussi. Hein.
Mais le Barça aussi.
Oui, quoi, le Barça, c'était ouais, Barça a gagné même... 6-0. Ouais, ouais. Mais franchement, c'était un match pour la sieste. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez regardé un peu, mais ça jouait. C'est Alavés, début de Suarez, Neymar, Messi.
Non, mais ils ont fait le
notamment.
Et Alavés venait de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi où ils retrouveront le Barça. Ils étaient physiquement cuits et c'était clair que sur ce match-là, c'est un match sur lequel, comme ils ne sont pas en danger, en grand danger en championnat, ils ont balancé.
Bon, pourquoi vous dites que Paris est prêt alors que Paris a eu les pires difficultés à battre Lille? C'était mercredi avec un but hors-jeu de Lucas et qu'effectivement hier soir ça a été plus facile.
Parce que souvenez-vous les années précédentes quand il y avait des grandes confrontations, que ce soit contre Chelsea ou Barcelone, il y avait toujours eu des blessés avant. Là, à part Pastore,
et certes, qui n'a pas joué en plus toute l'année.
Voilà, et certes, Thiago Motta qui sera suspendu, ils ont parfaitement pris. Oui, ben, vous avez
Thiago
Radio,
Motta,
Matuidi qui est resté sur le banc, Verratti qui revient au bon moment.
Je veux dire, voilà,
on a enfin retrouvé l'ombre. Pas encore vraiment le Di Maria, mais depuis l'arrivée de Draxler. Puis les chiffres, 2017, 10 matchs, 9 victoires, 29 buts marqués par le
D'accord.
Paris Saint-Germain, une concurrence à tous les étages. Le PSG est prêt, Pascal.
J'entends bien.
Déplaise.
J'entends bien. Alors, question précise, Trapp ou Areola? Ou Areola?
Areola. Trapp, la question se pose pas.
Là, il y a, bon, non, ça y a pas de question.
D'accord. Pour des problèmes de prononciation, ce sera Trapp.
D'accord. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Parce qu'on a beaucoup dit au Mercato que l'important, c'était de trouver une doublure à Cavani. Et si l'important, c'était de trouver un grand gardien au Paris Saint-Germain.
Aussi.
Et moi, je me suis amusé à constater que depuis le départ de Bernard Lama, en 2000, c'était il y a 17 ans, il y a eu 10 gardiens de but qui se sont succédés au Paris Saint-Germain. Aucun, vous entendez, aucun n'a fait l'unanimité. C'est vrai que...
Ils sont arrivés dans des drôles de période. Ouais.
Landreau était un bon gardien. Certes, Letizy n'était pas un mauvais gardien
Coupé
non plus.
Coupé aussi était pas
Coupé,
mal.
Etc. Mais aucun n'a fait l'unanimité. Le dernier gardien de but qui...
PSG-là aussi. Pendant ces années-là.
Oui, mais c'est vrai pour Sirigu, c'est vrai pour Trapp, c'est vrai pour Areola.
C'est plus facile aujourd'hui d'être gardien du PSG.
C'est jamais facile d'être gardien de but parce que t'es jugé au contraire quand t'es Trapp, t'es jugé sur un ou deux matchs.
Tu peux faire 15 arrêts
si
t'en as fait.
Peut-être que l'important pour Paris, c'est juste une parenthèse, ce serait de sélectionner, de recruter un grand gardien de but.
C'est une bonne parenthèse.
Merci.
Non, mais
vous aurez le droit de revenir la semaine prochaine.
Non, mais c'était prévu.
Ah, moi, je Bernard, dis c'est une très bonne parenthèse.
Toutes les grandes équipes, on l'oublie trop souvent, ont des gardiens performants.
Mais je suis d'accord avec
et
vous.
Et pas que des attaquants.
Courtois, De Rea, etc. Bon, deuxième question. Aurier ou Meunier?
J'ai l'impression que ça va être
Aurier. Mardi.
Bonne question.
J'ai l'impression que ça va être Aurier. Parce
pourquoi
que... Parce que malgré tout, il va falloir
de l'impact,
de l'impact athlétique. Parce que là, c'est le côté de Jordi Alba, c'est le côté de Neymar, c'est le côté de... Il va falloir leur faire mal. Meunier, c'est un, à mon avis même, un meilleur footballeur que Aurier. Mais par contre, défensivement, c'est quelqu'un de relativement fragile.
Dev, Meunier a des meilleurs stats que Aurier.
Je le vois battu sur les duels.
Mais il a des meilleurs stats.
L'épisode périscope.
Voilà, c'est ce que Sylvain a raison. J'ai envie de dire, quel Aurier?
Parce que le Serge Aurier d'avant l'épisode périscope,
il y a avant après,
un an, pour moi, c'était un top 5 mondial à son poste. J'en voyais très peu pouvoir rivaliser avec lui. Depuis, une fois c'est du très bon, une fois c'est du très mauvais. Moi j'ai toujours en tête le match face à City, mais bon, après il avait joué dans un 3-5-2.
Ouais, dans quelles conditions
il joue pendant 40 minutes.
Mais je pense qu'il s'y attendait même pas.
Mais moi en effet, j'ai envie. Je mettrais Serge Aurier parce que Meunier, défensivement, c'est moins fort qu'Aurier. Mais à quel Serge Aurier aurons-nous droit mardi soir?
Donc, c'est ça, deux voix pour Aurier, Eric Bilderman.
J'étais très hésitant, mais je dois dire que la démonstration de mes camarades me convainc effectivement sur...
Ah, vous
sur
êtes la... facilement...
Non, mais c'est
une preuve la suite dans les idées.
C'est une preuve d'intelligence d'écouter les autres.
C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison.
Vous l'avez pas volé, celle-là.
D'ailleurs, je vous propose de nous écouter jusqu'à la fin de l'émission, simplement, et de ne plus intervenir. Comme ça, ça sera votre meilleur rôle. Donc, trois voix pour Aurier, c'est ça que vous nous dites?
Absolument.
Bon, Bernard Lyons.
Moi, je rejoins l'analyse de mon ami Eric Biderman sans coup de cheval.
Oui.
Je rajouterais quand même que le fait...
Ah, vous êtes tous pro-Aurier ici?
Oui, parce que fait qu'il n'ait pas joué déjà hier, et qu'il a laissé reposer des Thiago Silva, qu'il a laissé reposer des Matuidi, en prévision de ce match qui arrive très très vite, Aurier était sûrement mené à jouer. Donc je pense que dans l'idée d'Emery,
on peut faire exactement le raisonnement inverse, qu'il a besoin d'un peu de rythme pour Barcelone. Franchement, je ne suis pas persuadé.
Mais comme je pense que Draxler débutera ce match face au Barça, je pense qu'il a mis Aurier sur le, il a laissé Aurier sur le banc, qui revient de la CAN aussi, il ne faut pas l'oublier. Et les joueurs reviennent toujours un petit peu fatigués, changement climatique, etc., etc. Je pense qu'il a laissé souffler pour le titulariser.
Ok. Mardi. Troisième question, qui à côté de Cavani? Vous vous dites Draxler
à gauche et peut-être Di Maria à droite.
Ouais, aussi.
Draxler à gauche, Di Maria à droite, c'est-à-dire que Lucas ne jouerait pas.
Parce qu'il a fait jouer pour Lucas.
Il a fait jouer Lucas tout le temps.
Mais c'est Barça.
Ça n'a pas de sens.
Mais si, ça a du sens, parce que la manière dont est en train de revenir Di Maria me laisse à supposer, un, qu'il jouera, deux, il est quand même, quand il est dans cet état d'esprit-là, il est bien plus décisif que l'est Lucas. Il est moins brouillon.
Et plus intelligent.
Plus intelligent. Et il a cette capacité à cadrer ses frappes. Je pense que pour un match de cette dimension-là, Di Maria prendra le dessus sur Lucas.
Il y a l'impact aussi sur l'adversaire. Mine de rien, Di Maria, en Espagne, il représente quelque chose. Il représente les jeux.
Il représente une Ligue des Champions gagnée.
Avec le Real. C'est pour ça que je dis surtout par rapport au Barça.
Mais il ne les a jamais alignés ensemble, là, Di Maria et Draxler autour de Cavani. Parce que là, hier, il avait l'opportunité de le faire.
C'est pas possible.
Pendant le direct, on était avec Dev, on s'est dit, il va peut-être pouvoir le faire. Non, il ne l'a pas fait. Il a mis Draxler à la place de Di Maria.
L'un ou l'autre?
Moi, je pense, parce que Lucas, c'est le joueur qui l'utilise le plus. Après, on aime, on n'aime pas. C'est le joueur qui l'a le plus utilisé depuis le début de la saison.
Et après, toi, tu l'aimes. Tu peux pas tous ne pas les aimer, les footballeurs.
C'est un peu comme pour la casette, je suis pas convaincu, mais bon, les chiffres sont là. Je vais juste terminer
c'est
là-dessus.
Pas c'est pas vous
que
qui faites l'équipe.
Lucas, défensivement, pour moi, c'est un peu plus sécurisant que
Di Maria. Dans l'énergie, dans le volume de course, c'est un peu meilleur.
Là, c'est le Barça, on joue pas Bordeaux. Malheureusement, va d'abord falloir penser à bien être stable défensivement, avoir un bon bloc avant de penser à déstabiliser cette équipe du Barça. Malheureusement.
Il y a une incohérence dans vos propos et elle m'étonne. Lucas est le joueur préféré d'Unai Emery. Il l'a toujours aligné. Pourquoi voulez-vous que contre Barcelone, il ne soit pas titulaire au commencement du match ?
Laurent Blanc a toujours joué en 4-3-3. Pourquoi voulez-vous qu'à City, il tente un coup tactique en mettant une défense à 3 centraux? Parce que ça existait et parce que ça a été fait.
Bernard Lyons, sa réponse à tout, ça mérite une page de publicité derrière cela, parce que franchement, cette perversion de l'esprit dont vous faites preuve, on retrouve dans une seconde pour parler toujours du Paris Saint-Germain, et notamment d'Edinson Cavani. Cavani est-il plus fort qu'Ibrahimovic?
Bien sûr que oui.
RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
19h13, Paris Saint-Germain, Barcelone, c'est mardi au Parc des Princes. À côté de Cavani,
Di Maria, Lucas ou Draxler pour terminer, Deva Padou.
Je pense que ça va être peut-être Di Maria, Lucas. Parce que Di Maria dans ses grands...
Tu vois pas Draxler.
On admet que Lucas, parce qu'il a joué tous les matchs, prend déjà une place, après il reste Di Maria ou Draxler à ce moment-là. C'est plutôt Di Maria.
Et Draxler, le premier test de haut niveau qui était contre Monaco, il est passé à travers. Et Draxler est arrivé avec l'étiquette d'un joueur très doué, très talentueux, personne ne peut en douter, mais quelqu'un qui... Par rapport à la pression, n'a pas encore bien trouvé le moyen de bien gérer ça. Dans un match qui va être, à mon avis, le match de l'année pour le PSG, ça se trouve, l'histoire peut être finie dès
avant la finale.
Non, mais voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une interrogation, tu vois, Emery l'a observé, peut-être, sur sa capacité à gérer ce type de pression. Di Maria, il sait.
19h14 sur RTL.
RTL. On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Cavani est-il plus fort qu'Ibrahimovic et que Suarez?
Alors,
Suarez uruguayen, Cavani uruguayen.
Suarez me paraît être un des 5 attaquants au top au monde.
Et le meilleur 9. C'est le meilleur 9 du monde, là.
Cavani, c'est un 9 pur, hein, je vous le signale.
Mais Suarez, pour moi, est au-dessus.
Il joue avec Neymar et Messi.
Et il est au-dessus parce qu'effectivement, il joue avec Neymar et Messi. Mais de toute façon, quand il était à Liverpool, à lui tout seul, il tenait Liverpool hors de l'eau.
Et dans les grands matchs, Cavani.
Et dans les grands matchs, il a toujours répondu présent.
À ce stade-là de la saison,
Bernard Lyons, voilà. 2 volées magnifiques de Cavani hier qui montrent combien il est en confiance.
Voilà, à ce stade de la saison, c'est le meilleur attaquant au monde. 33 buts en 31 matchs, c'est-à-dire qu'il a des statistiques.
Vous parlez de qui?
De Cavani, bien entendu.
Ah, aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant au monde, Cavani.
Il a des statistiques supérieures à celles de Lionel Messi.
Ça
veut rien dire. Si tu parles de Suarez...
L'important, c'est d'écouter un peu les autres, Eric. On apprend lorsqu'on écoute les autres, je vous le rappelle. Allez-y, Bernard.
Voilà, au jour d'aujourd'hui, il a des statistiques stratosphériques. Cavani, il marche dans les pas d'Ibra, une saison à 50 buts la saison dernière. Il est absolument extraordinaire, à une touche de balle. Je vous précise.
Moi, mon souci,
Sylvain Charlet.
Moi, j'attends de voir. Pour répondre à cette question, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains matchs parce que Ibrahimovic, on lui a toujours reproché.
C'est bien comme position. Vous reviendrez la semaine prochaine. On vous demandera. Le dégel ?
Non, j'attends que vous me laissiez terminer mon raisonnement.
Je vous laisse.
Ibrahimovic, on l'a critiqué, et à juste titre, et j'en faisais partie, parce qu'il n'était pas là lors des grands matchs, c'était fort avec les faibles, et faible avec les forts. Je cite Bertrand Latour. Donc moi, j'attends de voir Cavani, parce que
qui
Cavani...
Qui a inventé la phrase, d'ailleurs. Hein.
Voilà. exactement. Elle est
personne ne l'avait dite.
Personne avant lui.
Jamais.
Ce que je veux dire, c'est Cavani, sur les grands matchs, comme Ibrahimovic, il a toujours été décevant. Il y a toujours eu ce brin de maladresse. Sa force, c'est qu'il est... en confiance et qu'il ne doute pas. Moi, en début de saison, je me suis dit, le voir revenir au poste de numéro 9, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai envie de lui laisser quelques mois parce que je me rappelais de Cavani à Naples où à ce poste-là, il marquait les buts qu'il marque aujourd'hui. Donc là, j'ai envie d'y croire. S'il me plie les matchs en Ligue des Champions et qu'il qualifie le Paris Saint-Germain, j'irai jusqu'à dire
qu'il n'a pas été bon contre Arsenal, effectivement, lors du premier match de Ligue des Champions cette année.
Si, la saison dernière, non, la saison uniquement précédente, il a manqué l'immanquable.
Mais comme il aurait pu manquer exactement la même chose contre quand, je ne suis pas sûr que ce soit l'identité de l'adversaire. Ibrahimovic.
Ça joue quand même.
Je ne suis pas sûr que ce soit l'identité de l'adversaire qui joue sur sa maladresse. Sa maladresse, il rate un éléphant dans un couloir contre une équipe de CM2.
Non,
il peut, mais bien sûr.
Cavani. Arrêtez ce bashing, Cavani. Mais enfin, vous êtes.
Pascal, pourquoi
il marque 2 volées hier exceptionnelles.
Il a marqué 2 volées exceptionnelles. Ça fait 3 ans qu'il est là et ça fait 3 ans que systématiquement on a les mêmes débats sur le fait qu'il est capable de
marquer. Mais ça fait 3 ans qu'il joue sur le côté.
Mais pardonnez-moi, et là il joue cette année, c'est très.
Quand Eric Biderman dit que Cavani est moins fort que Suarez en sélection, donc avec la Céleste, avec l'Uruguay, ce qu'il a oublié de préciser, c'est qu'en 2011, quand il gagne la Copa América, Cavani est exilé sur un côté, Suarez est exilé sur un côté, et le joueur qui joue dans l'axe, c'est Diego Forlán. Depuis la retraite de Forlán, c'est Suarez qui a tous les ballons, c'est Suarez qui va tous les mettre au fond, comme avec Ibrahimovic qui jouait dans l'axe, et Cavani, qui n'est pas un joueur de couloir, jouait sur un côté. Cette année, vous le mettez dans l'axe, vous voyez ce que ça vaut, Cavani, c'est un joueur de dimanche. Mondial. Il faut arrêter de toujours dire qu'il n'est pas super fort. Mais oui, je suis sur le côté. C'est le meilleur attaquant au monde aujourd'hui.
Bernard Lyons,
là, il faut lui enlever les piles, c'est pas possible. Là, je veux bien écouter. Moi, vous m'avez dit d'écouter jusqu'à la fin de l'émission. Mais là, cette logorée-là, c'est pas possible.
Bon,
on va juste rappeler que Suarez.
Cavani, oui.
On va juste rappeler que Suarez a été absent pratiquement une année en sélection, que Cavani n'a rien fait pendant ce temps-là. Donc ça, c'est un premier point. Il y a quand même une différence de niveau. Le deuxième, je n'étais pas en train de remettre en cause la valeur de Cavani. J'étais justement en train de dire que ce n'est pas parce que c'était Arsenal qu'il a raté. C'est parce que ça peut lui arriver dans un mauvais jour de rater. Ce que je veux dire, moi, je pense même qu'il est supérieur à Ibrahimovic en Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'Ibrahimovic, il avait un problème. C'est que mentalement, ce n'était pas quelqu'un qui était prêt à aller au combat. Et quand il croisait Mascherano, quand il croise des joueurs de la Juve, etc., et qu'il faut se battre, et que c'est pas les, c'est pas la défense du FC Nantes. Pardon, Pascal.
Non, mais s'il vous plaît, je vois pas ce que le FC Nantes vient faire là-dedans.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il domine pas de manière absolue, c'est compliqué pour lui d'aller au combat. Cavani, c'est dans son ADN de se battre. C'est quelqu'un qui se battra toujours.
D'accord. Et il y a quelque chose d'exceptionnel chez Cavani qui est supérieur à tous les autres attaquants. Et là, je dis bien à tous les autres attaquants, c'est le nombre d'occasions qu'il est capable de se créer, les appels qu'il fait. Ce joueur a effectivement un ratio d'échecs, mais il a un ratio d'occasions créées par lui-même qui est exceptionnel.
Moi, j'attends de voir.
Tout à fait. 19h19 sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Pour conclure sur ce chapitre Paris Saint-Germain-Barcelone, comment va Barcelone ? Il se dit que c'est l'année ou jamais de prendre Barcelone. Est-ce que vous êtes d'accord de dire que Messi est peut-être moins bon, que le jeu est moins fluide ?
C'est certainement la bonne année parce que même si aujourd'hui ils sont quand même favoris par rapport au Paris Saint-Germain, Iniesta a été récemment blessé, Busquets va revenir, point d'interrogation,
il a débuté aujourd'hui, revient
un peu à court de forme. Neymar, autant on peut parler de Messi, autant on peut parler de Suarez. Moi, je trouve Neymar en dedans. Je pense que le fait d'avoir disputé les Jeux Olympiques, il le traîne un peu comme un boulet. J'ai la sensation qu'au moment du tirage au sort, c'était perdu d'avance. Plus on approche de ce match et plus j'ai envie d'y croire.
C'est toujours la même chose. Plus le match avance et plus on a envie d'y croire. Et puis à l'arrivée,
il y a quand même des éléments objectifs.
Il y a moins de maîtrise.
6-0 cet après-midi.
C'est pas un élément objectif, ça. Il y a moins de maîtrise dans notre jeu.
Charlet.
Busquets, Iniesta qui reviennent de blessures, normalement la vraie équipe du Barça la plus performante, elle devrait pouvoir disposer de ces joueurs-là au meilleur de leur forme, ce qui ne sera pas le cas. Iniesta revient aussi de blessures et dans l'entrejeu, voilà, c'est moins percutant, ça a moins de maîtrise. Mascherano ne sera pas là aussi. Alors je suis pas en train de dire que ça va être facile pour le PSG, mais en effet c'est un Barça un peu moins fort, mais à tout moment, comme on l'a encore vu cet après-midi, il y a tellement de qualité à tous les postes, malheureusement, que ça peut faire mal, ça peut faire mouche.
Bilderman. Lyon.
Ah non, moi j'ai pas de queue de cheval.
Non, mais Lyon.
J'ai pas de queue de cheval. Non, mais on a eu un début de réponse sur le niveau de ce Barça d'aujourd'hui. Il y a 15 jours, quand ils ont joué à l'Atlético de Madrid, ils se sont fait bousculer en seconde mi-temps. Ils ont perdu la seconde mi-temps 1-0. Griezmann a marqué. Et on s'est dit, ce Barça-là, il est prenable. Sauf qu'ils avaient fait une première mi-temps construite et aboutie. Et ils avaient mis 2 buts. Parce qu'ils ont des individuels exceptionnels. Neymar, Messi et Suarez. Et à l'arrivée, l'Atlético a perdu 2-1.
Je suis d'accord. Mais vous enfoncez des portes ouvertes quand même. Deva Padou, pronostic, PSG,
le match aller. Je vois un match nul. Un partout.
Bernard Lyons.
2-1 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Cavani.
Pas mal.
Eric Bilderman.
C'est exactement le même score, 2-1 Paris Saint-Germain, je ne donne pas les buteurs.
2-1 Barça.
2-1 Barça.
Mais lui, il n'aime pas le foot français, hein. Il n'aime pas la casette.
Il attend de voir, il a dit, il attend de voir.
Je suis réaliste.
Sylvain Charlet aime
personne. Je suis réaliste.
En France.
Il aime, on refait le match. Et nous revenons dans une poignée de secondes pour parler de quoi ? De Balotelli. Est-il un poids mort pour Nice ? Est-ce un génie ou un boulet, Balotelli ? Griezmann à Manchester United. Et puis on parlera peut-être de Wenger. Wenger, depuis le temps qu'on dit que c'est la fin. À force de dire que c'est la fin, à un moment, elle arrive. A tout de suite.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Nos amis qui sont sur les routes, figurez-vous, en vacances. Non, pas l'hôtel de la plage. Peut-être ont-ils la chance d'aller pourquoi pas au ski pendant les vacances de Noël. Donc on leur dit, les vacances de février, soyez prudents si vous êtes sur la route. Et puis, si vous êtes en vacances, pas forcément au ski d'ailleurs, que vous nous écoutez sur RTL, eh bien, nous sommes dans la dernière partie, on refait le match.
Eric Silvestro qui est sur la route vous embrasse.
Eh bien, écoutez.
Eric Silvestro qui officie régulièrement, je ne suis que son remplaçant, je le rappelle.
On l'embrasse.
Tu es le Draxler.
La semaine prochaine, Balotelli est-il un poids mort pour Nice ? Est-ce un génie ou un boulet ? Il avait été plutôt bon dans la première partie de saison. L'autre jour à Monaco, il a été inexistant. Alors qu'on l'attend précisément sur des gros matchs.
Il avait été plutôt efficace, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, alors, non, mais pour un numéro 9, être efficace, c'est être bon.
Je suis d'accord, sauf que Lucien Favre, à un moment, il sait que son équipe joue à 10 systématiquement quand Balotelli est là. C'est quand même un problème. Alors, effectivement, le truc, c'est comme il peut débloquer à peu près n'importe quelle situation sur et c'est le sens normalement de sa présence, très bien. Sauf que à partir du moment où il est un petit peu moins bien, à partir du moment où les défenses sont un petit peu mieux préparées, à partir du moment où il ne marque pas, son apport non seulement il est nul, mais il est pénalisant pour l'équipe. Et il est là le problème. Mais sinon comment on se passerait
de
Balotelli ?
Il y a eu vraiment une cassure dans l'histoire de Balotelli à l'OGC Nice, parce qu'effectivement on l'attendait sur ce match-là. Les Niçois ont été fessés. Conséquent, j'étais à l'Alliance Riviera mercredi et tu voyais la tête de Balotelli à l'échauffement, ça a été terrible. À un moment, on a cru un incident. À peu près à l'heure de jeu, quand il s'est levé du banc de touche, il est rentré au vestiaire parce qu'il était remplaçant. Et là, on s'est dit, oh là là, Balotelli ne va pas revenir. Ouais. Il est revenu, il est rentré sur le terrain en marchant. Il a eu une occasion à la Balotelli où il aurait pu marquer. Et là, on apprend que depuis, il est un peu fiévreux et que demain, il n'effectuera pas le déplacement à Rennes. Donc ça veut dire que Balotelli va une fois de plus manquer à l'OGC Nice. Mais la vraie question, et Dave Abadou l'a posé,
ne leur manque pas.
C'est est-ce qu'il leur manque vraiment dans le jeu.
Et les autres éléments qu'on a appris aujourd'hui,
Eric Bilderman.
C'est Eric qui en a parlé dans l'équipe.
Ah oui.
C'est qu'en plus, il tire la tronche. C'est qu'il n'est pas bon, il est mis sur le banc, et au lieu de se révolter, au lieu de positiver, de se mettre en situation de revenir sur le terrain, eh bien, il est dans une forme de renoncement et il fait la gueule. Donc, c'est mal barré.
Mais là, c'est hyper important. La gestion de Favre est hyper importante. Parce que là, tu sens dans les propos d'Emeric qu'il en a agacé quelques-uns dans le vestiaire et que maintenant... Ils osent le dire tout haut, parce qu'avant c'était Balotelli débarque, c'est lui la star, on va s'adapter à lui, mais dans le jeu il ne pèse pas, ce n'est pas un boulet parce que Nice est performant sans lui, donc là c'est un moment charnière.
Ça peut être un boulet financier déjà.
Ah non, ça peut être, mais je pense
et
que...
Et puis dans le vestiaire ça peut créer quelques malaises, parce que quand
c'est
un joueur comme ça est payé à ce
là
qu'il
le moment
est payé,
est central.
À partir du moment où
la gestion de Favre est centrale.
Je ne pense pas que ça crée un incident dans le vestiaire, parce que si on le met sur le terrain, en dépit du bon sens, et en plus avec le salaire qu'il tient, là la gestion du vestiaire me paraît très intelligente.
Et en dépit de Pléa,
ce soir,
parce que Pléa, il est très bon.
Ce soir, il va jouer contre Metz. Qui Balotelli.
Non, je vais vous annoncer qu'il n'effectuera pas le déplacement à Rennes, Pascal. Il n'est pas du déplacement à Rennes, Balotelli.
Parce que justement, il est complètement hors du coup.
Officiellement, il est fiévreux.
Oui, 19h27 sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Deux, trois petites questions pour terminer. Griezmann à Manchester United. D'abord, est-ce que c'est fait ? On l'a annoncé la semaine dernière.
Non.
Eric Bilderman.
C'est pas fait du tout. Il y a quand même un élément important. Vous signez à Manchester United aujourd'hui si le club n'est pas en Ligue des Champions. Oui. Est-ce que c'est la même chose que si vous signez à Manchester ?
Ils sont à la bagarre là.
Oui, ils sont à la bagarre.
Ils sont revenus à la bagarre. Ils ont gagné cet après-midi.
Tu ne peux pas aujourd'hui, quand tu es Griezmann et que tu es dans une trajectoire professionnelle telle qu'est la sienne, t'engager
ascendante parce que tu
légèrement tu peux pas te mettre en situation de t'engager à Manchester United si c'est pour être 5e ou 6e du championnat et jouer l'Europa League la saison prochaine. Ça n'a pas de sens par rapport à sa progression professionnelle. Bien entendu que financièrement il aurait certainement à y gagner, mais il y a d'autres perspectives pour lui. Donc tu vas à Chelsea par exemple,
pourquoi pas cette équipe. Alors là Manchester est en train de
il a 26 ans Antoine, Pogba a 22 ou 23 ans.
Oui, puis donc, Pogba, il y a une histoire personnelle.
Donc, à un moment donné, Pogba sort de 3 ou 4 titres consécutifs avec la Juve. Mm-hmm. Il a disputé une Ligue des Champions.
Il y a un accord quand même, c'est Yahoo qui avait donné.
S'il décide
d'aller à Manchester, il décidera.
Un accord de nos confrères de Yahoo qui avait
donné. Vous savez ce que c'est que les accords du mois de février?
Il faut faire confiance à ce média.
Un document signé au mois de février n'a aucune valeur juridique à partir du moment où la période des transferts n'est pas ouverte. Donc il peut totalement se dédire
d'information qui n'a pas été confirmée par le journal de l'équipe.
Et United, je vous le redis, est en train de se replacer dans la lutte aux places pour la Ligue des Champions. Donc en fin de saison, ça peut peser.
Tu sens que l'histoire est en train de se finir quand même à l'Atlético Madrid, oui. D'ailleurs,
ça c'est sûr.
Et malgré tout, moi je suis d'accord, j'ai l'impression que Manchester, la page Ferguson,
ils sont en pole position, s'ils sont 5e ou 6e du championnat, ça sera une clause à mon sens pour ne pas y aller.
Un peu de musique parce que justement notre ami Del Perrier est sur la route des retours de vacances de ski, donc il avait envie de réentendre ça justement. Et c'est lui qui avait donné l'information sur Yahoo, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Le Multiplex est en préparation. Christian Olivier vient d'arriver dans ce studio.
Le Multiplex est sur zone, cher ami. Bonsoir.
Bonsoir, Christian Olivier. Comment ça va? Et vous?
Bien. 5 matchs, on va se régaler. Souvenez-vous.
Et Monaco, dernier. Surtout, ce soir.
Oui. La semaine dernière, on avait Paris. Monaco, c'est princier.
Bien sûr. Jeu de mots.
Tout va bien ?
Et vous ?
Parfaitement bien. J'aimerais qu'on évoque peut-être ce soir l'énorme bug de la vidéo lors du match Bordeaux-Rennes.
En fait, c'est une obsession. C'est-à-dire qu'il est là dans le studio depuis deux minutes. Il est dans le studio depuis deux minutes. Il parle de la vidéo. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il se couche le soir, il parle de la vidéo dans le football.
N'avez-vous pas trouvé que nos confrères, et nous-mêmes d'ailleurs, avions zappé un peu rapidement ce qui s'est passé?
Mais il n'y a pas eu de bug du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, Christian Olivier?
Simplement que le ballon n'est absolument pas rentré et que la montre de l'arbitre du match Bordeaux-Rennes, elle a vibré.
Et alors?
Et qu'à un moment donné, l'arbitre pensait devoir revenir vers le rond central.
Mais ça a changé quelque chose au résultat?
Ça n'a rien changé du tout.
Bon, bah alors il n'y a pas de bug.
Du bug, simplement.
Bah, le bug, c'est une mauvaise information.
Vous révisez l'histoire, vous révisez tout.
Je révise l'histoire. Bon, on va en parler en tout cas, Christian Olivier.
Oui, mais dites-le, vous êtes un révisionniste de l'histoire du football.
Fichtre, 19h30.